Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Oh, mais tous ces post-it que je peux barrer.
Qu'est-ce que tu fais, Marie?
Ah, c'est la meilleure sensation, ça.
Bah, c'est après le spécial BD, machin. J'avais toute ma horde de post-it que je peux niquer.
Ah ouais, ce bonheur.
Effacer, voilà,
ah, ça, c'est tellement bien.
De la fin des to-do list.
Dead Space, c'est j'adore fini. Forspoken, c'est fini.
Allez, on balance les post-it.
La liberté.
Moi, je sors du. Moi, je fais du Google Doc avec mes notes. Et là, je me suis tout à l'heure le voile blanc là, quand mes notes ont disparu.
Ah, tu m'étonnes.
Pas plus de connexion. Mais ça m'a. J'avais un écran blanc, ma page blanche. C'est terrifiant.
Oh, t'aurais pu t'en sortir.
Des post-it. Je vais racheter des post-it, moi.
Ah, le post-it, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein.
Ah ouais, c'est clair.
Franchement.
C'est pas tout ça, mais on a une bande annonce à enregistrer, les amis.
Oui.
On a une bande annonce. Et la question qui va bien, c'est la question un peu. J'ai aucune intention de faire des questions thématiques, mais là, ça va bien avec le programme de la semaine. C'est la question, c'est quelle a été votre plus grande frayeur dans un jeu vidéo? On va commencer avec toi, Patrick.
Alors, j'aurais pu vous parler de Project Zero où j'osais plus ouvrir une porte. Non, je vais vous parler de la première frayeur. Celle qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué et que je n'oublierai jamais. Elle est sur le jeu Le Pacte, signé par Eric Chahi, qu'on connaît pour Another World et d'autres titres. Mais Le Pacte, c'était une de ses premières productions sur Amstrad, qui reprenait grosso modo le contexte de la maison d'Amityville. En fait, on incarnait une petite bande d'enquêteurs du paranormal et on venait résoudre des problèmes de démons qui hantent cette demeure. Et en fait, concrètement, c'était un jeu, on va dire, d'aventure avec des plages graphiques et puis un système assez ingénieux de commandes. C'est-à-dire qu'on tapait pas du texte, mais on faisait des assemblages à la manette entre un verbe et puis un complément. Mais surtout, il y avait plein de trouvailles dedans pour foutre la trouille. Et moi, je me rappelle de parties devant mon écran, mais j'étais tétanisé pour plein de choses. Il y a plein de bonnes idées, c'est-à-dire qu'on est sur Amstrad. Et malgré tout, c'est une machine évidemment limitée, mais en fait, il y avait des systèmes où les tableaux étaient animés. Ça paraît tout bête, ce que je vous dis. Mais nos amis, on partait en bande, on était une petite équipe comme ça d'enquêteurs dans cette maison, se déplaçaient à l'écran. On les voyait se déplacer sur un écran fixe, mais eux se déplaçaient. Et j'ai des moments de frayeur quand on arrive dans cette maison, dans le noir, avec juste des raies de lumière par l'éclairage de nuit, en fait, avec juste en bleu. Et on voyait ces formes se balader dans la maison. Alors, comme ça vous parle pas, mais allez voir un petit peu des captures d'écran, vous comprendrez. En fait, on comprend que ce sont nos acolytes qui nous suivent, un chien qui est avec nous. Mais ces déplacements à l'écran étaient absolument tétanisants parce qu'on a une peur qui commence à monter. Il y a une tension qui se développe dans cette maison. Et puis, en dehors de cette astuce qui était vraiment très très bien faite, il y avait ces personnages. En fait, il y avait une sorte de chronologie dans l'aventure avec des événements à faire, etc. Et je me rappelle de passages assez tétanisants où, par exemple, une de nos équipières se retrouvait en lévitation dans le hangar à bateaux à côté, sans trop qu'on comprenne les tenants et aboutissants. Une peur comme ça picturale, parce qu'en plus, ouais. Amstrad, c'était fou, c'est qu'il avait Il y avait une sorte de dissonance, c'est-à-dire que l'Amstrad, il est connu pour ses couleurs chaudes, son rouge vif, son bleu vif, et en fait, on avait un jeu d'une noirceur assez forte, et cette sorte de dissonance entre les couleurs pimpantes connues de l'Amstrad, qui était très très bien pour les jeux d'action, et cet univers assez effrayant d'une maison hantée à explorer, avec, en plus, ce qui est génial, c'est que Sally avait mis en scène des parties de... On faisait des séquences de spiritisme pour comprendre quoi faire dans... Waouh, c'était, mais il y avait énormément d'idées dans ce jeu, et moi j'ai dû le découvrir, okay. J'avais quoi, 12 ans, et c'est génial, c'est que pour moi, ça matérialise vraiment le micro-ordinateur quand t'es ado, pré-ado, qui est une sorte de porte ouverte sur un monde, tu vois, du cinéma d'horreur auquel t'as pas forcément bien accès, surtout à l'époque, c'était pas évident. Et ça, moi, le pacte, c'était la découverte de ça, en fait, de cet univers horrifique. C'était fascinant. Moi, je me rappelle de vrais moments de frayeur devant mon petit écran avec des potes. Et c'est le pacte de Chahi. Voilà, moi, c'est ma première frayeur devant un jeu que j'oublierai jamais et qui me fait toujours un effet. Hein. Je l'ai déjà relancé, le jeu. Essayez-le, si vous pouvez. Il fait toujours son effet. Et j'en parle à Eric Chahi dès que je le croise. À chaque fois, je lui en reparle parce que ça m'a totalement traumatisé. Le pacte, voilà, premier grand frisson que j'oublierai jamais.
Julie, on a envie de savoir quel est le moment fondateur, quelle est la plus grande frayeur, toi qui adore avoir peur dans les jeux vidéo.
Ah bah c'est deux questions différentes, parce que c'est vrai que la peur fondatrice, c'est autre chose.
Ah oui, la plus grande alors.
La plus grande, c'est... alors bizarrement, enfin j'ai plein de moments de jeu qui me sont venus en tête. Enfin vraiment, je pourrais vous parler du moment où Mia monte dans les escaliers dans RE7 en VR. Mais mon vrai moment d'effroi, moi c'était plus un effroi lié à la vraie vie, parce qu'il s'agit de ma toute première expérience de jeu en ligue.
Ah oui.
En gros, j'étais étudiante, je jouais à Soul Calibur 6 et je me disais que ce serait sympa de jouer contre quelqu'un, parce que là, à ce moment-là, j'avais personne qui jouait. Et donc, du coup, je me suis lancée dans un match en ligne. Et je me suis trouvée face à une joueuse qui... Enfin, je sais pas si je me suis complètement fait troller ou pas, mais une personne qui jouait Astaroth. Et qui ne m'a pas décroché un seul mot de toute notre conversation. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Enfin, je veux dire, j'entendais la respiration. Et en fait, au moment où donc elle m'assénait un perfect, enfin vraiment, je me suis fait massacrer sur ce premier match. Elle chantait, mais vraiment un chant de petite fille possédée. Elle faisait juste la 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 en me défonçant avec des petits rires par-ci par-là. Enfin, je veux dire, et parfois elle s'arrêtait quand je parlais et elle rigolait en réaction.
Mais c'est un pitch, c'est un pitch de film d'horreur, ça.
Complètement terrifiée. J'étais toute seule chez moi. Je me dis, mais c'est ça en fait le jeu en ligne. Et vraiment, enfin, j'en ai à peine dormi cette nuit-là, quoi. C'était terrifiant, terrifiant. Puis avec Astaroth en plus. Enfin bref, là, il y a tout calé.
Et t'as continué à jouer en ligne après ou...
Non, après j'ai supplié mes amis de jouer pour plus jamais avoir ça. Et je jouais en ligne sur des jeux un peu plus rassurants, genre Resident Evil 6, quoi. Mais vraiment, ce Soul Calibur, c'était chaud.
Ah, c'est incroyable. Marius.
Moi, j'ai pas votre amour pour les jeux d'horreur parce que je suis un pétochard. ta réponse, Erwan, je la connais, elle est super. Et effectivement, ça a joué aussi, mais je te laisse. Non, moi, le vrai truc qui m'est venu à l'esprit quand t'as posé la question, c'est un jeu d'horreur que j'ai acheté parce que je venais d'acheter ma Xbox, qu'il n'y avait pas grand-chose qui était sorti encore. Et du coup, j'ai acheté Condemned, sans vraiment trop savoir ce que j'achetais.
Et bon choix.
Passer le premier contact un petit peu aride, des coups de baramine dans la tronche, jouer en FPS contre des espèces de...
SDF.
Ouais, j'ai pas regardé le jeu depuis des années, mais dans mes tripes, j'ai l'impression de me battre avec des SDF à coups de baramine dans des ruelles glauquies.
C'était
atroce. Et j'ai un souvenir spécial du moment où il y a des mannequins qui se déplacent. On est dans une petite pièce. Et il y a des mannequins qui apparaissent, qui se retournent, qui commencent à te regarder. Et j'ai le souvenir de pousser des cris dans mon salon et d'être moqué par mon épouse pour ça. Et vraiment, mais j'étais mal. J'étais avec la paume des mains qui sue le... Non, c'était atroce.
Ah, j'aurais pu mettre Condemned qui a suivi. Moi, ça a été un vrai traumatisme. Je pense que dans les dates de sortie, c'était assez proche parce qu'il y avait Doom 3 qui était à peu près dans les mêmes moments.
Et un peu avant Doom 3.
Ouais, c'était un peu avant et j'ai créé une sorte de phobie des jeux à lampe torche, des jeux en vue subjective à lampe torche. Que pendant très très longtemps, j'ai même pas pu le lancer. En fait, j'avais trop peur. Moi, je voulais revenir. Moi, je suis plus dans les moments un peu fondateurs comme toi, Patrick. Moi, c'est idiot, mais c'est le premier Alone in the Dark. On a reçu Frédéric Rénal pour la 500e. Et donc, on vous en avait parlé, Julie et Patrick, vous en avez parlé avec lui. Mais moi, c'est vraiment ce moment où moi, j'avais mon ordinateur. J'étais un des rares dans mon école d'ingénieur à avoir un PC, mon 386 DX40. Je sais. Et qui pouvait faire tourner Alone in the Dark. Et en fait, moi, j'ai des souvenirs, mais... Et c'est fou quand on voit les images aujourd'hui, mais j'ai des souvenirs. Je jouais à Alone in the Dark et j'étais en résidence étudiante et j'avais tous mes voisins de mon étage de résidence étudiante et les voisines et les voisins qui étaient derrière moi en train de me regarder jouer et tout le monde était terrorisé, en fait. Il y avait un côté comme ça, ultra flippant. Évidemment, c'était tous les côtés que... C'est marrant, Frédéric nous a dit que c'était presque pas voulu, mais le côté avec les angles de caméra qui faisaient qu'on voyait pas ce qu'il y avait derrière la porte, derrière le couloir. Enfin, voilà, tous ces trucs de terreur qui ont forgé le survival horror après. Et moi, je sais que les premières apparitions de zombies, en plus... qui était rendue encore plus terrifiante par cette espèce de mort idiote qu'on a par le plancher troué au début de Alone in the Dark. On est tous morts à ce moment-là. Donc il y a ce moment où on craint l'inconnu. On a peur de mourir à n'importe quel moment. Et en plus, il y a ces premiers zombies qui arrivent. Aujourd'hui, les images nous semblent absolument très plates, très fades. Mais à ce moment-là, c'était autre chose. Il y avait une immersion qu'on n'avait jamais connue avant.
On mettait beaucoup de nous-mêmes aussi. En tant que joueur, les graphismes étaient plutôt spartiates. Du coup, on se projetait beaucoup. L'imaginaire tournait à plein régime sur des jeux comme celui-ci.
Ouais, c'était spartiate à l'époque. C'était quand même ouf.
Bah ouais, c'était la 3D.
Oui, mais je veux dire, quand tu compares à aujourd'hui...
Le vectoriel, pardon. Pas la 3D, c'était du vectoriel.
Pendant très longtemps, petit, j'ai jamais dépassé ce salon horrible là avec le cheval à bascule. Et c'est un traumatisme, quoi.
Oh là là. Enfin voilà. Les grandes frayeurs du jeu vidéo. Vous, c'est quoi vos grandes frayeurs du jeu vidéo? N'hésitez pas à le partager avec nous dans le salon bande-annonce du Discord de Silence on Joue. Et nous, on se retrouve évidemment demain avec l'épisode de la semaine de Silence on Joue. Ciao.
Ciao.
Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.